Goulfèche. Non, c'est pas Goulfèche.
Je vis un arbuste tombé. Après New York, c'est à nous.
Mais non, c'est un hélicoptère. Il a lâché quelque chose, là.
J'ai vu un trait de lumière juste avant l'explosion. Forcément, c'est un missile.
Non, c'est une bombe dans la rue.
Non, ça vient de la place Saint-Georges, non?
Ah bah moi, je vous dis que ça vient de Matabio, là. J'ai vu que ça a pété
en Matabio. C'est un problème de gaz à la cuisine du conseil général.
Mais merde, mais où est-ce que ça a pété?
C'est la gaffe. Ça a pété partout, je vous dis.
Mais gosse!
Putain, c'est l'ONIA, c'est AZF, con.
Allô? Allô? Je suis avenue de Muret, c'est cassé de partout. On va chercher le gosse à l'école, il y a plein de gens, il y a plein de jeunes, ils reviennent de Gallieni, je crois, je sais pas, il y a du sang partout. Il y a plein de parents là, ils courent, je sais pas où ça a pété. À Gallieni, ils disent, mais moi je crois que c'est l'ONIA, ça doit être l'ONIA, c'est pas possible, depuis le temps. Et puis, comme il y a les travaux, avenue de Muret, on voit rien, je sais pas, c'est bizarre. Ah, on arrive à l'école. Bon, ben, à l'école, ils veulent pas nous donner des gosses. Il y a un père qui casse la vitre. Allô?
Je suis à Rennerie. C'est l'ONIA. Je vous assure, c'est l'ONIA. On voit bien l'énorme nuage, là. Ça a du tout pété. Oh là là. Tous les bâtiments sont cassés. Il y a plus de vitres. Il y a plus de fenêtres. Les gens sont partout sur les... Partout sur les pelouses, tout le monde est descendu. Il y a du sang, il y a des blessés partout. Il faut absolument les pompiers, mais les pompiers ne viennent pas. Pourquoi ? Il n'y a plus personne, il n'y a pas de pompiers. Il nous faut de l'aide, là. Je vais sortir du quartier. Il faut aller chercher des pompiers. Je prends la voiture et je vais voir si je peux trouver de l'aide. À tout de suite.
On a réussi à prendre le gamin. Moi, je cours derrière une femme. Elle jette toutes ses affaires. Enfin, elle tombe. En plus, il y a de la fumée. On ne sait pas trop. Normalement, on devrait pas être dans la fumée. Mais bon, mais tant pis. Vaut mieux être dans la fumée vivant. Je sais pas. On ne sait pas quoi faire. Bon, on va se regrouper. Puis on va partir loin du nuage parce qu'il y a le nuage. De temps en temps, il y a des voitures. Je sais pas. Qu'est-ce que vous me dites? Non. Je crois que... Non. Oh là là, la voiture. T'as vu la voiture, comment elle est, dans quel état elle est? Et les vitres. Où est le boucher? Le boucher, dans quel état il est? C'est pas possible.
Je suis à la fourguette. Ça va pas du tout. Alors, je peux pas avancer. Tous les gens ont pris leur voiture. Il y a un énorme embouteillage. Je comprends pas du tout qu'est-ce qui se passe. On est complètement bloqué. Non, ça va pas. Je vais abandonner la voiture, je vais me garer sur le trottoir, enfin tout le monde fait ça, les gens descendent de leur voiture, il y a des gens partout qui partent dans l'autre sens, mais pourquoi ils partent dans l'autre sens? La rocade c'est tout droit, pourquoi ils vont dans l'autre sens? Ils ont tous des choses sur le visage. Regarde celle-là, elle a un masque et une écharpe, mais pourquoi elle a mis une écharpe? Il fait beau, mais non, elle a mis une écharpe sur son visage, et tout le monde court, pourquoi tout le monde court dans l'autre sens? Tout d'un coup les cendres, il y a des cendres partout. Je suis toute grise, ça va, je vais pas respirer, j'ai la gorge qui étouffe, j'ai mal à la gorge, il y a un truc dans l'air, je sens, j'ai très mal à la gorge et tous ces gens vont dans l'autre sens, il se passe quelque chose de très grave je crois, c'est très grave.
Allô, madame, mais arrêtez de balayer, ça sert à rien de balayer, tout est cassé.
Nous avons entendu une grosse déflagration et l'impression comme une bombe ou une explosion de gaz. Et puis c'est tout l'immeuble a tremblé, puis c'est tout.
La ville de Toulouse sous le choc. Peu après 10 heures, une violente explosion a secoué le centre-ville. Les dégâts sont considérables.
Qu'elle a été perçue non seulement au centre-ville de Toulouse, comme vous le disiez à l'instant, mais jusqu'à 30, voire 40 kilomètres de Toulouse. Nous avons des témoignages de personnes qui ont entendu cette explosion. Jusqu'à Martre-Tolosane, c'est à peu près à 40 km de Toulouse, vers Castres, dans toute l'agglomération toulousaine.
L'explosion s'est produite dans une usine chimique de type Céveso, au sud de la ville. Une usine qui produit les combustibles de la fusée Ariane.
On a évacué dans la seconde où il y a eu la deuxième déflagration. Et donc tout le monde est sorti en moins de 5 minutes.
On a senti une explosion très très forte, avec un souffle terrible.
J'ai vu une gerbe de fumée monter très haut dans le ciel et une explosion sur un diamètre de 5 km, au moins de la poussière partout. Et C'est à 10 km là-bas, quoi. Voilà, c'est tout. Et puis on est descendu, tout l'immeuble a été évacué, les fenêtres sont descendues, puis voilà.
Oui, il y a eu des mouvements de panique, c'est sûr. Nos équipes nous le disaient, nous le voyons nous-mêmes ici. Nous avons été très fortement secoués. Nous sommes en plein centre de Toulouse. Nous sommes tous sortis sur le parvis, sur les places. Il y avait des centaines de personnes qui regardaient en l'air. On a d'abord parlé des Galeries Lafayette, puis des Carmes, c'est un marché important, pour finalement savoir qu'il s'agissait de BZS. Ce qui est extrêmement important à savoir, c'est qu'elle voisine avec une autre usine, qui est la SNPE, Société Nationale des Poudres et Explosifs, et on a eu très très peur. Il semble pour l'instant, en tout cas si j'en crois les services de sécurité, police et pompiers, que la SNPE ne soit pas touchée. S'agit-il d'un accident? S'agit-il d'un attentat? Il nous est impossible de répondre pour l'instant.
L'explosion serait d'origine accidentelle.
Un important nuage de fumée se dégage, vous l'avez vu?
Oui, il s'agirait d'ammoniac. D'ailleurs, les services de secours qui sont sur place, et nos équipes de reportage nous l'ont dit, sont toutes munies de masques à gaz. Ce nuage peut se déplacer dans différentes directions, d'autant que le vent d'OTAN souffle en ce moment, et il pourrait ramener ce nuage vers les quartiers les plus proches de l'usine. Il s'agit des quartiers sud, et notamment du Mirail.
La préfecture invite la population à rester chez elle et à se calfeutrer. Un nuage de fumée provenant du sud de la ville se dirige actuellement vers le quartier du Mirail. Mais il n'y a aucune trace de toxicité pour le moment, selon le préfet.
Je vais vous annoncer qu'un nuage toxique s'était formé au-dessus de la ville. Il y a bien un nuage de fumée, il est assez visible par tous les Toulousains. Mais d'après le préfet de Haute-Garonne, ce nuage n'est pas toxique. Information qui nous parvient à l'instant même.
Il est important de dire que la population doit rester chez elle, portes et fenêtres fermées, et que de très 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 nombreux blessés affluent maintenant vers les centres hospitaliers, notamment celui de Purpan. Le SAMU a lancé des consignes de sagesse, de précaution, en demandant aux gens de rester chez eux, de ne pas prendre leur voiture. Les services de sécurité sont débordés, et j'apprends à l'instant que l'événement est tellement important que le Premier ministre se déplace et va arriver à Toulouse d'un instant à l'autre. D'ailleurs, l'aéroport de Blagnac est fermé et la navigation aérienne est détournée sur Bordeaux.
Juste un bilan qui nous provient de la préfecture qui a été effectué à 14h. 12 morts recensés, 150 blessés légers et 30 blessés graves. Plusieurs établissements ont été évacués également, comme l'hôpital Marchand et le Crous. Dégâts matériels sur site aux alentours. Et puis, évidemment, vous avez pu vous en rendre compte, si vous habitez l'agglomération toulousaine, des dégâts autour également, et même fort loin du site, avec par exemple des vitres brisées dans le centre-ville de Toulouse.
Quand on arrive sur place, en fait, le calme, juste les services de sapeurs-pompiers.
On dit un paysage lunaire.
C'est un chaos, en fait, un véritable chaos.
Il faut s'imaginer.
Toutes les sociétés, il ne restait plus que les armatures métalliques et des châteaux de cartes.
Il y a beaucoup de cendres au sol, une cendre marron, je peux imaginer que c'est un produit. Les voitures sont là, défoncées, les portières ouvertes, on imagine que les gens sont partis, il n'y a plus que les secours. Et ce qui reste aussi de cette usine, et dont une fumée s'échappe encore, visiblement pas d'incendie.
On parle aussi d'une forte odeur. Est-ce que vous l'avez ressenti? Je vois, Alexandre, notamment, que vous avez un masque dans les mains.
Oui, les masques sont assez difficiles à trouver, puisque j'ai mis 2 heures avant d'en avoir un.
Qui vous l'a fourni?
Les sapeurs-pompiers.
D'accord.
Mais c'est vrai que tout le monde est un peu demandeur.
Et alors, est-ce que ça sert à quelque chose, Alexandre, un masque comme celui-ci?
Apparemment,
si on peut voir en image.
Pas vraiment, d'après ce qu'on a pu nous dire. En fait, un linge mouillé serait peut-être mieux adapté que ce genre de masque. Mais bon, c'est déjà une première protection. Les gens ont l'air un peu abasourdis. En fait, de plus, il y avait une école pas loin, donc beaucoup de parents avec leurs enfants dans les bras.
Très choqués, sûrement.
La stupeur, en fait, les gens ne comprenaient pas vraiment ce qui s'était passé. En plus, beaucoup de panique, puisqu'on parlait de toxicité.
Oui. Je crois qu'on ne réalise pas encore tout ce qu'on a vu. Et voilà.
C'est vrai que je pense que c'est le mot.
C'était l'explosion de l'usine AZF.
C'était le 21 septembre 2001, il y a exactement 15 ans.
Boum, quand notre cœur fait avec lui dit boum, et c'est l'amour qui s'éveille. Boum, il chantait Love in Bloom, au rythme de ce boum, il relit boum à l'oreille. Tout a changé depuis hier, et la rue a des yeux qui regardent aux fenêtres. y a du lilas et y a des mains tendues. Sur la mer, le soleil va paraître. Boum, le monde entier fait boum. Tout avec lui dit boum. Quand notre cœur fait boum, boum, boum. La pendule fait tic-tac, tic-tic. Les oiseaux du lac pic-pac, pic-pic. Glou, glou, glou font tous les dindons. Et la jolie cloche ding-ding-dong. Mais boum, quand notre cœur fait boum, tout avec lui dit boum. L'oiseau dit boum, c'est l'orage. Boum, l'éclair qui lui fait boum. Et le bon Dieu dit boum, dans son fauteuil de nuage. Car mon amour est plus vif que l'éclair, plus léger que l'oiseau, qu'une abeille. Et s'il dit boum, s'il se met en colère, il entraîne avec lui des merveilles. Boum, le monde entier fait boum. Tout avec lui dit boum. Quand notre cœur fait boum, 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 on n'entend que boum, boum. Ça fait toujours boum.
Panique. Pour les 15 ans de l'explosion d'AZF, du 19 au 26 septembre, à Canal Sud et à La Chapelle à Toulouse, une semaine sur AZF et tout ce qui fait boum.
Pas de panique.
Plus d'infos, canalsud.net.
Ouais, salut auditrices, auditeurs, comme vous l'avez entendu, depuis ce lundi et jusqu'à lundi prochain, ces semaines spéciales sur Canal Sud et dans Toulouse, à l'occasion des 15 ans de l'explosion de l'usine chimique AZF. Ça s'appelle « Quand votre ville fait boum » et c'est une semaine où on va évoquer AZF évidemment, et plus largement l'industrie et le monde qui va avec notre monde. Alors, dès 9h du matin, tous les jours, vous pourrez retrouver des rediffusions d'émissions. À 10h17, chaque jour, un retour rapide sur des catastrophes industrielles marquantes. Demain matin, on parlera de la catastrophe de Seveso en Italie. C'est en 1976. Hein, elle a donné le nom aux directives qui encadrent aujourd'hui les industries à haut risque. On parlera également de la catastrophe de Bhopal qui reste à ce jour, en termes de morts hein, et de dégâts humains et matériels, qui reste la plus grande catastrophe industrielle en temps de paix hein, de notre histoire humaine. Vendredi, on parlera de l'explosion de Tianjin. Ça, c'est plus récent. C'était l'an dernier. Et lundi matin, toujours à 10h17, focus sur les accidents industriels hors normes que sont les catastrophes nucléaires. Lundi prochain, le front du lundi, hein, c'est le rendez-vous à midi et demi, de midi et demi à 14h chaque lundi. Le front du lundi sera consacré à l'industrie de la guerre, ce sera avec l'Observatoire de l'armement. Mais, la grosse journée, ce sera ce samedi 24 septembre. On vous attend à La Chapelle dès 10h17 et pour 10h17 d'émission, une longue et belle émission. Au programme, plateau, jeux, débats mouvants, etc., etc., au cours desquels on abordera les liens de l'industrie et de l'agriculture, les liens de l'industrie et de l'armement, et les liens de l'industrie et de l'urbanisme. Ce sera en direct, en public, de la chapelle hein, derrière le Conseil Général, pour ceux qui l'ignorent, 36 rue Daniel Casanova. Ça, c'est samedi, dès 10h17 et jusqu'à 20h34. Mais avant tout, place à aujourd'hui, hein, nous sommes le mercredi 21 septembre, c'est aujourd'hui la date anniversaire de l'explosion d'AZF. Émission spéciale en direct du studio de Canal Sud. Exceptionnellement, toute la journée, le studio est ouvert au public, vous pouvez nous rejoindre. Nous sommes là, en direct, salut à tous.
Nous sommes en direct au 40 rue Alfred Duméril, donc à Saint-Michel, pour venir nous voir directement sur place, en chair et en onde.
Voilà, d'autant plus qu'à partir de 11h30, dans quelques minutes, c'est micro ouvert. Vous pouvez venir évoquer l'explosion, ses conséquences immédiates, soit ici sur place, soit par téléphone. Le numéro du studio de Canal Sud, 05 61 53 36 95. 05 61 53 36 95. Alors qu'un téléphone sonne. Donc ça, ce sera déjà, c'est déjà les témoignages. Ça, ce sera de 11h30 à midi et demi. À midi 40 à peu près, ou midi 45, on parlera de la lutte qui a eu lieu pour la fermeture du site. Et puis à 14h30, on passera aux questions judiciaires, car les procès sont pas terminés. Hein. Le prochain procès, je crois que c'est janvier ou février, il sera à Paris.
Le 24 janvier, il commence à Paris.
Voilà, ouverture d'un procès qui a été délocalisé du coup. Donc on parlera des procès passés et à venir. Ça, c'est à partir de 14h30. Nous sommes ensemble jusqu'à 15h30, c'est quand votre ville fait boum sur Canal Sud 92.2 et canalsud.net.
Alors, on est aussi entendu dans différents endroits. Donc, un petit coucou à Valsiguière, hein, puisqu'il nous écoute. On va démarrer sur un petit historique hein, pour savoir ben, comment se fait-il qu'il y ait de l'industrie d'armement à Toulouse.
Disons que l'histoire de l'armement à Toulouse remonte à très longtemps, remonte au XVIIe siècle, et on va vous brosser un petit historique de l'histoire de la poudre et Toulouse, Toulouse et la poudre, Toulouse sans la poudre.
1684. Le premier moulin à poudre de Toulouse, implanté au niveau de l'ancienne écluse accolée à l'actuel pont Saint-Michel. En 1684, le moulin à poudre ayant fait explosion, tous les vitraux de leur église furent brisés et la toiture fortement ébranlée. 600 livres de dégâts, 40 livres de compensation accordées par les capitouls.
Alors, c'est en 1666, sous Louis XIV, que le Conseil royal établit sur tout le pays des ateliers pour faire de la poudre noire à partir du salpêtre. Les fermes des poudres et salpêtres sont alors créées. La ville de Toulouse cède une quarantaine d'hectares pour cela. Débute alors la première exploitation d'explosifs à grande échelle, et c'était sur l'île du Ramier, sur la rive gauche de la Garonne, à la limite sud de la commune. Comme vous l'avez entendu, la poudrerie explose pour la première fois en 1684. En 1764, la Manufacture nationale d'armes et arsenaux est créée. La poudrerie explose une seconde fois, le 21 septembre, mais oui, 1781, un vendredi, à 10h30 du matin. C'est comme si c'était le premier rebond d'une répétition de l'histoire à venir. La révolution de 1789, après la révolution de 1789, est institué le monopole de fabrication et crée le service des poudres et explosifs qui est placé sous l'autorité du ministère de la Guerre. La poudrerie impériale est créée sur l'île d'Ampalo, un peu décentrée de l'île du Ramier, à Toulouse. Avec la guerre contre l'Espagne, en 1792, c'est une fonderie de canons sur le site du château Narbonnais. Alors le château Narbonnais se situait à l'actuel palais de justice, et c'était le lieu où les capitouls, qui étaient les autorités locales, faisaient leur politique. En parallèle, l'arsenal révolutionnaire de l'armée des Pyrénées est installé aux portes de Toulouse. En 1804, 1806, 1816, 1817, 1822, 1840, six nouvelles explosions à la poudrerie font leur lot de victimes et de dégâts. En 1870, année bien connue pour la commune, une cartoucherie est installée au sud de Toulouse. Elle va produire toutes les munitions utilisées lors de toutes les guerres qui suivront, jusqu'aux dernières guerres coloniales de la France. Le conflit avec l'Allemagne, la guerre de 1870, donne des ailes à toute cette production. Mais le vrai décollage économique, industriel, guerrier ne commencera qu'avec la boucherie mondiale de 14-18. La région toulousaine est sûre, sereine, bien située, entre les deux mers, bien desservie, regorgeant d'énergie entre la force hydraulique qui descend des Pyrénées et le charbon qui vient des mines de Carmaux qui sont tout proches. Et surtout, elle est loin des fronts de l'Est, de l'Allemagne et de la Russie. L'envol économique est fulgurant, propulsant la ville à la troisième place des cités françaises productrices d'armes après Paris et Lyon.
22 décembre 1780, à Saint-Cyprien, quartier de Toulouse. Le dépôt d'un quintal de marc de poudre de mine dans la cuisine d'une auberge, juste à côté de ses fourneaux, fit sauter la plus grande partie de cette même auberge et ébranla toutes les maisons voisines. Toutes les vitres furent brisées.
Toutes les vitres furent brisées.
Les boisages et les portes des appartements fracassés.
Et les portes des appartements.
Plusieurs de ceux qui s'y trouvaient tombèrent à la syncope sans avoir néanmoins éprouvé d'autres mal. À l'horrible fracas succéda l'incendie. Il a été inhumé dans le cimetière de la paroisse 13 morts non compris, ceux que les flammes ont absolument consumés et une tête, des bras et des jambes qu'on a trouvés épars, ça et là, parmi les ruines.
Et une tête, des bras et des jambes qu'on a trouvés épars, ça et là, parmi les ruines.
Donc, la guerre de 14-18... Rien qu'à la cartoucherie, c'est 50 000 personnes qui travaillent. À la poudrerie, c'est 30 000 personnes. À l'arsenal, c'est 16 000 personnes qui s'activent. En gros, c'est trois fois plus que pendant la période de paix précédente. Donc, on va citer par exemple la Société anonyme des ferronniers du Midi, les ateliers Dominique Rieux & Co, les ateliers établissements Amouroux Frères, les établissements Polyfleury, les forges du Languedoc. En fait, toutes ces boîtes vont faire la fortune de leur patron en fabriquant des armes et la grandeur de la France militariste. La fin de la guerre, 1918, après trois ans de guerre, les mutineries éclatent sur le front et les grèves ouvrières à l'arrière. L'armistice est signé. La signature en 1918 du traité de Versailles, la France récupère le monopole de l'exploitation des brevets et des procédés d'exploitation, le brevet Haber, de l'ammoniac de synthèse. Une petite parenthèse. Jusqu'à présent, les explosifs et les engrais venaient du guano des oiseaux d'Amérique du Sud qui étaient très forts en azote.
La fiente.
La fiente des oiseaux. Elles arrivent par bateau et donc il y a un blocus qui s'opère auprès de ces bateaux pour empêcher que ces produits arrivent sur le sol allemand pour pouvoir faire de l'engrais pour la population et des explosifs. Or, les Allemands découvrent la manière de synthétiser l'ammoniac pour fabriquer des explosifs. C'est les procédés Haber. Donc, il leur faut de l'azote et de l'hydrogène. Donc, pendant la guerre, c'est l'Allemagne qui profite de la fabrication de synthèse. En 18, c'est la France qui récupère ces procédés. Ils vont créer la société chimique, va se créer la société chimique Grande Paroisse, qui va devenir l'ONIA AZF, et l'ONIA, donc en 1924, sur décision ministérielle, pour produire cet ammoniac de synthèse. Et de suite, une nouvelle usine est construite à Toulouse sur les terrains de la poudrerie nationale. 70 hectares, rive gauche, 3 km de la ville, à l'écart des habitations au début, le complexe chimique toulousain s'étend maintenant. Sur 200 hectares, il se développe pour produire les produits de base nécessaires à l'armement, en particulier l'acide nitrique tiré de l'ammoniac et la production industrielle d'engrais. Donc, au XIXe siècle, la puissance d'un pays se mesure à la quantité de nitrate d'ammonium que ses manufactures produisent pour les engrais, mais surtout pour les explosifs. En 1927, cette première production d'ammoniac de synthèse commence avec son dérivé d'acide nitrique dans les réacteurs chimiques qui ont été construits à AZF. En 1929, on se retrouve avec une production de 55 000 tonnes par an d'ammonitrate. Et en 1931, les premiers ammonitrates agricoles et industriels qui arrivent.
Vendredi 21 septembre 1781. Vers les 10h30 du matin. Le feu prit à une des batteries du moulin à poudre. L'explosion fit sauter l'entier édifice, à l'exception des murs. On vit les poutres et les planchers s'élever dans l'air avec une extrême vélocité. Aucune victime, que des dégâts matériels.
En 1939, chaque jour, ce sont 160 tonnes de nitrate d'ammonium qui sont produites. Avec l'armistice de 1940, les usines restent sous contrôle du gouvernement français et continuent à produire du matériel militaire qui sera vendu à l'armée d'occupation. Elles sont réquisitionnées en 1942. De 1940 à 1944, les usines d'armement n'arrivent pas à assurer la demande. L'Ognan ressent des difficultés d'approvisionnement en matières premières et en énergie. Elle limite sa production, 50 tonnes par jour, en 1944, mais cependant sans jamais l'interrompre, si ce n'est quelques mois après un bombardement nord-américain. Après la guerre, la production prend un rythme de croisière pour alimenter les guerres coloniales françaises et autres. En 1948, l'ONIA accorde des prêts bonifiés à ses employés qui veulent acheter un logement proche de l'usine ou un bout de terrain pour y construire une petite Toulousaine. La future cité Papus est en train de voir le jour. Deux ans plus tard, en 1950, l'usine dénombre 3247 salariés sur un même site. C'est à ce moment-là la première entreprise toulousaine en termes d'emploi. Avec le développement dans les années 60 des engins propulseurs, les produits de base fabriqués à l'ONIA alimentent la poudrerie, qui va devenir la Société Nationale des Poudres Explosifs, la SNPE, pour la fabrication de perchlorate d'ammonium et d'hydrazine, servant de base au carburant explosif, au propergol des missiles ou de la fusée Ariane. Le propergol, c'est un produit de propulsion constitué d'un mélange de comburant et de combustible. Au début des années 1960, l'Ognan s'étend sur plus de 100 hectares, consomme autant d'électricité que le département du Gers et concentre 50% du trafic ferroviaire de la ville. En 1965, l'Ognan devient l'APC, azote produit chimique. Et à partir de 1983, l'APC devient AZF, azote fertilisant. La production s'est diversifiée avec des ateliers de chimie fine, résine, détergent, chlore pour les piscines, colle pour le bâtiment, mélamine, une résine issue de l'urée pour l'industrie. Toujours dans les années 80, les écologistes commencent à tirer la sonnette d'alarme sur les dangers que représente l'usine. Ils demandent déjà son déménagement. On ne les écoute pas. 1997 à 2000, extension des capacités de production de l'usine. La société Grande Paroisse rejoint le pôle fertilisant d'Atofina, qui regroupe les activités du groupe Total Fina Elf, qui est la fusion de Total Petrofina et d'Elf. En 2000, juste avant l'explosion, d'importants investissements à hauteur de 180 millions de francs, soit plus de 27 millions d'euros, sont réalisés pour accroître les capacités de production de l'usine. Elle devient ainsi l'une des plus performantes d'Europe, parmi les unités de production les plus puissantes au monde. Ses capacités de production en ammoniac et en urée sont toutes deux portées à 370 000 tonnes par an. La capacité en nitrate d'ammonium est stabilisée à 190 000 tonnes par an. L'usine tourne 24 heures sur 24. Elle emploie entre 400 et 500 personnes avec les intérimaires. Des chiffres qui donnent le vertige. 1000 tonnes d'ammoniac par jour. 1200 tonnes d'urée par jour. 820 tonnes d'acide nitrique par jour. 820 tonnes de nitrate agricole et 400 tonnes de nitrate industriel par jour, etc. À ce moment-là, ce sont 6000 personnes qui se rendent quotidiennement dans le sud de Toulouse pour travailler dans les sites chimiques, dont 3 sont classés Seveso, seuil haut, AZF, SNPE, Tolochimie. Ce va-et-vient incessant de travailleurs, véritable flot humain, croise tous les jours les wagons-citernes remplis de produits toxiques qui circulent sur les voies ferrées de la région.
« 27 juillet 1804. Vers midi, le feu prit au moulin à poudre. Le couvert a sauté, une batterie a pris feu. Heureusement, cet accident, que l'on attribue à la négligence des ouvriers, n'a pas eu d'autre suite fâcheuse. Personne n'a perdu la vie, ni même reçu de blessures. » Thank you.